I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dis-moi, Kevin. Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais.
Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça?
Pourquoi pas?
Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur RDWA 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Nous sommes donc dans l'émission Arrête ton cinéma. Bonsoir Gwen.
Bonsoir Anna.
Et nous avons perdu Becky pour l'instant, mais elle risque d'arriver incessamment sous
peu. Oui, sans doute est-elle à la recherche du diable.
C'est ça, elle est partie en enquête spéciale, en reportage, pour chercher le diable. J'espère qu'elle ne le trouvera pas.
Si ce n'est qu'elle le ramène par le bout de la queue.
J'ai pas osé la faire. Mais voilà. Donc ce soir, vous l'avez bien compris, on va vous parler du diable comme annoncé la semaine dernière.
Voilà, tout à fait. Le diable au cinéma. Donc ça commence très tôt.
C'est ce que j'allais dire. Ça commence tôt, non?
Dès les premiers films, puisque le premier est de 1896, Le Manoir du Diable, qui est fait par Georges Méliès. Georges Méliès, vous savez.
Le Méliès.
Voilà, c'est ça, celui, le père des effets spéciaux. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, c'est un des films très français. Parce que, je veux dire, il en a fait deux en 96, deux, trois en 97, dont le Faust et Marguerite. En 98 et 99 et jusqu'en 1900, puisqu'en 1900, là, c'est le premier film américain, The Mystic, de E.S. Porter. Donc, celui qui avait inventé le premier western, E.S. Porter. Et puis, il continue toujours, Georges Méliès. Bon, après, c'est vrai que c'est des courts-métrages. C'est pas des films d'Avatar. Ça dure pas deux heures. Voilà, c'est vraiment que c'est plus des diables, style un petit peu théâtral. Voilà, il y a l'œuf du sorcier, les farces de Satan en 1903, le cakewalk infernal. Et puis, on a un film russe, je crois, oui, en 1917, Satan triomphant, de Monsieur Prozdazov.
Oh, l'accent russe que tu as.
Voilà. Et à partir de 1914, alors par contre, là, c'est carrément la dominance des United States of the America. Voilà, c'est fini la suprématie française sur les démons et le cinéma. Là, c'est les films américains. Il y en a même un film en 1918, To Hell with the Kaiser, de Monsieur Irving.
Kaiser Soze?
Oui, non, pas Kaiser Soze. Non. C'est sur l'empereur d'Allemagne qui a fait un pacte pour dominer le monde. Et oui, on est en 1918, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, alors c'est vrai que après il y a un pléthore de films, on va pas se lancer dedans,
non,
c'est
si
hyper
on
compliqué.
Fait, tous les films sur le diable, les pactes avec le diable,
voilà.
Les démons,
voilà.
Balthazar, Belzébuth et compagnie.
Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'après c'est super compliqué puisque effectivement, on a le diable, les démons qui sont parce qu'il y a une hiérarchie.
Sous-jacent.
Voilà, il y a une hiérarchie quand même.
Ah bah c'est comme le dieu et les anges, non?
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce qui est, moi je trouve quand même notamment assez drôle, c'est vrai qu'on a fait une émission sur Dieu, sur les anges, et là on fait une émission sur le diable et donc tous ses serviteurs, et c'est vrai que quand tu regardes la filmographie, il y a quand même bien plus de films sur le diable que de films sur Dieu.
Le mal attire toujours plus. Tu sais que les démons, en fait, de manière mythologique, c'est les anges déchus.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes déchus. On leur a donné la chance d'être anges, mais c'est eux qui ont dit non et qui ont préféré aller combattre aux côtés du diable.
Ben oui, parce que en fait, Satan, ça vient du hébreu et ça veut dire adversaire. Et c'est vrai que oui, c'est il y a Lucifer aussi. C'est-à-dire que c'était des anges au cadre, hein, je dis, au cadre du paradis. Et à un moment, ils se sont rebellés contre Dieu. Et puis la fameuse aussi Lilith, hein, puis qui était considérée techniquement comme la première femme d'Adam. Mais bon, voilà, elle était un peu rebelle, elle faisait pas ce que Adam il voulait.
Oh là là !
Donc au bout
d'un
moment,
c'est quoi cette femme ?
Au bout d'un moment, ben Adam il l'a virée et là c'est là que Dieu est arrivé, il lui a piqué une côte et il a inventé Ève. Voilà. Alors.
Donc voilà, donc c'est les adversaires de Dieu. On est bien
voilà,
d'accord,
c'est ça.
C'est pour
bah,
mettre une
que...
espèce d'anti.
Bah, disons que le cinéma a toujours eu ce côté tentateur, ce côté un peu de jouer sur l'apparence. D'autant plus que c'est très marrant, mais on a fait beaucoup de sondages et les gens croient plus au diable qu'en Dieu, ce qui est quand
tu
même...
Tu veux dire que les gens ont plus peur du diable qu'ils ne croient
oui.
en Dieu et...
Mais c'est ce que je trouve très marrant, puisque finalement, le diable est quand même issu de Dieu. Et que
c'est
non,
ça,
non,
c'est ouais. la même chose, c'est, tu crois. C'est, voilà. c'est un pack.
C'est le pacte.
Tu peux pas désolidariser le pack.
Ouais, c'est le deux en un, mais là, non, non. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, je pense qu'il y a aussi le fait que le diable est aussi matérialisé. C'est-à-dire qu'avant, c'est difficile quand on ne sait pas qui est son adversaire. Là, il est matérialisé. Il a des barbes, il a une barbe fourchue.
Des barbes.
Bah oui, ça dépend. Il est aussi multicorps. Parce qu'en fait, il est quand même issu de toute la mythologie antique. Hein. Il a ses fameux cornes du dieu Dionysos, les pieds de bouc de Pan.
C'est ça.
Il y a toutes les fêtes.
C'est une espèce de...
Oui. Oui, ma chère Anna, tu es en train de chercher le mot.
Mais, de satire.
Oui, c'est ça, la satire, oui. Et ben, oui, parce qu'il est le pied de bouc, et puis c'est vrai qu'il y avait toutes les fêtes, les Dionysac, ou Dionysoc, Dionysac, est-ce qu'ils sont devenus les sabbats, hein.
Je crois pas que ça soit Dionysac, je crois que c'est Dionysac ou un truc.
Dionysac, ouais, peut-être. Dionysac, ah, ça fait un peu bioman.
On regardera.
Alors, bon, on va se lancer un petit peu dans la filmographie.
Tout à fait. Qu'est-ce que t'as choisi, toi ?
Alors, moi,
ton préféré, dis-moi ton préféré.
Alors, mon préféré, c'est Angel Heart d'Alan Parker, hein, celui qui avait réalisé Midnight Express et qui donc réalise en 1987 donc Angel Heart avec Mickey Rourke, à l'époque où il était encore beau, Robert De Niro, Lisa Bonet et Charlotte Rampling. Donc, en
oula,
fait,
mais attends, c'était quand tu m'as dit ça ?
En 1987.
Donc, elle est jeune, Charlotte.
Ah oui, elle est mais Mickey aussi.
Oui, forcément, ça va te
oui,
plaire.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, en 1955, à New York, le détective Harry Angel, et oui, parce qu'il y a toujours des noms, est engagé par un mystérieux Louis Cipher pour retrouver Gianni Favorite. Donc en fait, le film est une parfaite alliance.
C'est une comédie ou...
Non, c'est une parfaite alliance entre le polar et le fantastique. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs rôles de Mickey Rourke. Donc en fait, parce que en fait, il doit rechercher ce fameux Johnny Favorite de son vrai nom, Jonathan Libin. Donc qui est un ancien crooner disparu depuis 12 ans et qui est recherché par ce célèbre Louis Cipher, donc joué ici par Robert De Niro avec la barbe et les ongles pointus. Et en fait, la fin du film va se passer en Louisiane, donc la terre du vaudou. Et en fait, on voit donc le Harry. Dans tous ses états. Harry qui
rencontre Sally.
Oui, non, il rencontre une jeune fille, une métisse, et là, il y a vraiment une séquence du film moi, qui choque oui, à l'époque où je l'ai vu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'amour.
Donc, ah ouais, ça va choquer.
C'est la façon dont pas de s'y prendre. Non, j'avais vu le dernier tango à Paris. Là. Depuis, je suis moins choqué. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'amour dans cette. Humidité de la Louisiane, tu vois les murs qui sont en train de transpirer de l'eau, des gouttes qui tombent, et d'un coup, l'eau devient du sang. Donc, oh. Et elle, la nana, elle est en train de souffrir de cet acte, quoi. Après, je vous expliquerai pas la fin de l'histoire, le secret qu'il en est, mais si vous avez regardé Old Boy, ça vous dira peut-être quelque chose.
Old Boy ?
Old Boy, oui, oui. Donc voilà. Et en fait.
De toute façon, il y a souvent une histoire de. Arrête-moi si je me trompe. Une histoire un peu de naissance du démon, naissance du diable, avec les femmes qui font l'amour avec les démons et le diable, tout ça, non?
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, des sorcières, c'était un peu ça. On se couchait. Mais en fait, c'était pas si agréable de coucher avec le démon. Il avait un sexe très froid et... Ah oui, oui. Il y a eu beaucoup de... Parce que, évidemment, il y a eu la Sainte Inquisition. Ils ont interrogé des sorcières. Ils ont
raconté.
Oui, enfin, ils lui ont fait subir la question. Je veux dire, à l'époque, les Torquemada et autres, c'était pas des tendres. Et en fait, donc comme ça s'appelle, Robert De Niro joue le rôle de Lucifer. Évidemment, jeu de mots. Lucifer. Voilà.
Ah là, mais parce que. Oui, non, mais on avait compris le jeu de mots.
Ouais, mais franchement, il est très très bien. C'est vraiment un film assez noir.
Redis-nous alors.
Angel Heart.
C'est fait par
Alan Parker. Et il est excellent. C'est un petit bijou. Et bon, moi, j'ai adoré. Après, il y a L'Associé du Diable de Taylor Hackford.
Oui.
C'est celui qui avait fait Officier Gentleman, si ça vous dit quelque chose. Donc, avec Keanu Reeves.
Can you break my heart?
Yeah, Al Pacino. Oui, enfin. Al Pacino.
Oui, Al Pacino.
Oui, parce qu'avant, on avait eu Robert De Niro, et là, c'est Al Pacino. Et Charlize Theron. Alors, en fait, c'est l'histoire.
Pas de jeu de mots sur le nom de famille de Charlize.
Ok, merci. Non, elle est sud-africaine, j'y touche pas. Kevin Lomax, donc, qui est le Rastignac des avocats. Hein.
Le Rastignac?
Oui, Rastignac. Tu liras Balzac, tu comprendras ce qu'il sait.
C'est dégueulasse. J'ai pas lu Balzac, effectivement. Dis-moi ce que c'est.
Eh ben, en fait, c'est un personnage grandiloquent. Tu vois, qui dépasse vraiment l'horizon des avocats. C'est un personnage à lui-même et qui est indépendant. Et là, monsieur Kevin Lomax, lui, ne perd jamais un procès. On voit au début du film, là, il est l'avocat d'un pervers sexuel et il arrivera carrément à discréditer la jeune fille qui porte plainte. Et là, John Milton, donc Al Pacino, va lui proposer un poste à New York. Et donc, alors, image aussi, parce que John Milton, évidemment, pour ceux qui connaissent la littérature un peu démoniaque, c'est l'auteur du Paradis perdu, qui est un immense poème en prose, justement, sur Satan et sur Dieu. Donc, à lire aussi celui-là. Donc, évidemment, tout semble merveilleux, puisque Lomax arrive avec sa femme, Marie-Anne, à New York. Là, c'est l'opulence.
Ah oui, mais finalement, il va devoir se battre pour un procès.
Oui, il se bat pour un procès et il arrive à gagner. Et en fait, sa femme, elle, par contre, a des visions démoniaques. Et au bout d'un moment, elle vire complètement folle. Elle-même se suicide, hein, puisqu'elle accuse John Milton de l'avoir violée, alors que ça pouvait pas être possible, puisque à l'heure dite, il était avec son mari. Donc voilà, et c'est vraiment un grand film. Et sous, parce que bon, après je vous raconterai pas la fin, mais
oui, mais bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Milton, il a des accointances avec les démons, tout ça.
C'est le diable lui-même, voilà. Hein, et il propose un pacte justement à Lomax. Et voilà, après,
qui est difficile à accepter ou refuser, quoi.
Oui, et puis en fait, mais c'est toujours ce petit côté, mais même dans Edge of Art, c'est ce petit coup où tu dis, finalement, les gentils ont gagné, mais non. Non, il y a toujours un petit retournement, puisqu'il y a cette fameuse phrase à la fin, de tous les péchés capitaux, c'est l'orgueil que je préfère. Voilà, qui est prononcé évidemment par notre cher Al Pacino.
Dilemme du pacte va quand même de pair avec tous ces films de démons, etc.
Oui, tout à fait. Oui,
cette
oui.
espèce de je sais pas.
En fait, c'est issu évidemment de Faust, hein, puisque c'est ce qui était un astrologue du 16e siècle, et évidemment connu internationalement depuis l'œuvre de Goethe. J'aime bien dire Goethe.
Goethe.
Et puis moi, alors, par contre, si on tape un peu dans la littérature, je préfère la version de Mikhail Bougalkov, qui est un russe, qui est Marguerite, et le maître est Marguerite, qui là aussi a été tourné en film, moins bien, et, hélas réussi. Et alors, par contre, pour revenir à L'Associé du Diable, qui est hélas mal traduit, puisque bon, ça, hein, toujours le problème des Français, puisque en anglais c'est L'Avocat du Diable, c'est quand même un peu plus logique.
Ah, ouais.
Bah ouais, ouais, parce que c'est l'histoire de l'avocat. Je veux dire, il y a un pacte, l'avocat. Il y a une phrase justement issue de Faust, mais là je l'ai pas en tête, donc qui parle justement d'avocat. Et évidemment, le film pose le problème: jusqu'où l'homme peut-il aller par carriérisme?
C'est exactement ça.
Et suggérer que la vanité, oh vanité des vanités, est le plus court chemin vers la perdition.
Jusqu'où l'homme peut aller pour son individualisme à lui, quoi. Quand on arrête de penser groupe, on pense forcément à soi. Et du coup, les pactes avec le diable sont quand même vachement intéressants.
Bah oui, mais c'est-à-dire que oui, puis il y a toujours l'envie de gagner vite, de devenir célèbre, d'avoir le pognon et sans travailler.
Ouais.
Finalement, en fait, le diable fait des shows télévisés depuis.
C'est ça. Et tu parles de Faust. T'as quelque chose à nous dire sur les films Faust?
Non, hélas. Ah, si, ben, y avait celui de Soukhorov là, qui est sorti dernièrement, je crois, en 2012, et qui apparemment était très très bien. Mais c'est là,
bon,
non.
Bah,
c'est-à-dire que moi je suis parti sur puisqu'on parlait de pacte, ça me fait penser au film Ghost Rider de Mark Steven Johnson en 2007, puisque là on a le cascadeur Johnny Blaze qui est joué par Nicolas Cage.
Donc, ton ami.
Oui, voilà, c'est ça. Et qui est un cascadeur de son état, et en fait il fait un pacte avec le diable pour sauver son père qui a un cancer. Et donc il dit, bon ben moi je te donne mon âme et tu sauves mon père, parce que mon père c'est mon idole et tout. Et finalement, le père meurt, mais pas d'un cancer. Enfin, c'est ça.
En même temps, il ne faut pas oublier que tu fais un pacte avec le diable.
C'est
quoi.
Ça, oui. Il faut toujours regarder les petits caractères en mode. Et donc, en fait, l'histoire de Ghost Rider, qui est issue des comics, Marvel et compagnie. Et en fait, c'est-à-dire que c'est un mec qui va lutter contre le diable. Parce que
le diable lui a mis à l'envers.
Voilà, c'est ça. Et il va lutter contre tous les démons. Alors, par contre, le premier film comme le second film sont assez nazes. Hein.
Et ça, là, c'est la faute de Nicolas Cage.
Oh, oui, enfin bon, il y a quand même la présence d'Eva Mendes. Non, mais bah, enfin bon, voilà. C'est-à-dire qu'il va devenir, puisque là, il est aidé par un cavalier qui était le Ghost Rider d'avant. Et là maintenant, il y a toujours ça, hein. D'ailleurs j'ai remarqué, c'est mais
non, cette espèce de, ouais, de bah, mentor,
ouais, voilà,
ceux qui savent,
voilà, c'est ceux qui savent. Donc ils vont, on va l'introduire si vous me permettez cette expression, dans ce combat contre le diable. Et là évidemment, Ghost Rider, c'est le type qui est sur sa Harley de l'enfer, hein, qui trace des flammes, qui peut monter à la verticale sur des immeubles et qui a des chaînes, évidemment un crâne en flammes. Voilà, parce que moi ça me fait penser aussi à un autre film, Spawn, de Marc Dippé, qui est aussi là un comics, hein, de Todd McFarlane. Donc en fait, c'est un tueur à gages qui a été tué, et donc il fait un pacte avec le diable pour retrouver évidemment son aimé. Et là, il va lutter. Alors moi, le film, j'ai pas trop regardé les comics, mais alors par contre, le film est une bouse innommable. C'est-à-dire,
oui, on en a parlé hors antenne. Voilà, tu m'as dit, mais Spawn, laisse tomber, quoi.
Bah, c'est-à-dire que, tu vois, le mec, il avait une bonne idée. Bon, il reprend un comics, c'est un truc qui est fait établi. Il y a des fans. Ok, d'accord. On dit bingo. On dit banco.
Il a dit banco.
Et donc voilà. Mais après, tu regardes le budget. Bon, c'est vrai que c'est dans les années 90, fin 90. Peut-être qu'effectivement, on est loin de Matrix encore. Les effets spéciaux sont assez bidons. Sauf le costume de Spawn, où là, parce qu'il a évidemment un costume qui peut tout faire, parce qu'il est hyper tactile, il envoie des chaînes, il a une cape merveilleuse qui lui permet de s'envoler. Et là, donc, il y a aussi un ancien, un mec du 16e siècle et tout, qui va lui dire comment il faut travailler avec son armure et tout, de lutter
étrange.
Contre les, et voilà, et de lutter contre les démons. Parce que évidemment, là, il faut faire une apocalypse pour que le démon puisse arriver sur Terre. Et là, le mec, je sais pas qui c'était le responsable des effets spéciaux à l'époque sur ce film, mais
il faut le tuer.
Il faut lobotomiser, ou je sais pas, ou peut-être lui donner un ordinateur un peu plus conséquent. Parce que je veux dire, autant les effets spéciaux sur la cape, bon, c'est de l'époque, je vous l'accorde. Mais alors le démon, mais si vous avez vu sur, je sais pas, sur l'internet, l'image du chien le plus moche au monde, et ben c'est ça. C'est-à-dire que c'est un démon qui ressemble à un chien avec la mâchoire bien en avant et qui bouge pas. C'est-à-dire qu'on voit sur tous les côtés, mais tu sais, même quand il parle, la bouche, elle bouge pas.
Un peu comme les monstres des Power Rangers.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est tout fait en ordinateur, parce que là, l'autre, c'est des costumes, donc ça bouge un peu, il fait la 3. Mais c'est minable de chez minable. Donc voilà, mais ça fait partie des super-héros, comme il y a aussi Hellboy, hein, en 2004, de Guillermo del Toro, et puis il y aura aussi les Légendes d'Or, Maudites, qui sera en quelques années plus tard.
Les Légendes d'Or. Maudite.
Les Légions d'Or maudites.
D'accord.
Parce qu'en fait, évidemment, tout se passe en 44, puisque là aussi, c'est un comics. Hein. Les nazis, en fait, ont décidé d'ouvrir une porte sur un autre monde grâce à Rasputin. Hein. Et oui, c'est logique.
Et là,
c'est... Comme c'est pas... trop probable, quoi.
Comme dans ABBA.
Hein?
Comme dans ABBA.
ABBA. Le film avec les chanteurs suédois? Non.
Mais non.
Donc voilà, donc de Bonnier. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une porte et là, il y a un démon qui est apparu et qui sera sauvé par le professeur Broom, qui va évidemment...
Broom, ça veut pas dire balai?
Non, Broom. B-R-O-O-M. Broom. Pas le groom, le broom. Parce qu'on aurait
non,
pu confondre.
Pas c'est... le valet, voilà. Le balai.
Le balai, non, pas le balai.
Broomstick.
Broomstick. Non, mais pas le stick de broom.
Excuse-moi, je suis fatigué aujourd'hui.
On n'est pas à l'heure des héroïques jouissances, là, s'il vous plaît. Donc voilà, en fait, et ce professeur va lui donner une autre morale, puisqu'évidemment, il aurait dû être un démon qui détruisait le monde et ainsi permettait aux dieux anciens de pouvoir venir sur Terre. Et ben non, là, il va être mis en relation avec Abraham, qui est en fait un mi-homme, mi-homme, mi-poisson, et surtout... Bah oui, un peu ça. Hein. Et puis Liz, évidemment, qui est évidemment grâce à son esprit crée du feu. Et donc voilà, et ils vont.
Évidemment.
Et ben oui, c'est logique. Hein, oui, tout à fait. Et donc voilà, et dans le 1, donc il lutte contre Rasputin, et dans le 2, en fait, il y a l'histoire du prince Nuada, donc qui est en fait un elfe. Et qui veut en fait détruire l'humanité, puisque en fait il y a eu une époque, une guerre entre les elfes et les hommes, et que là le roi des elfes avait créé une armée d'or qui était indestructible. Bon, et vu qu'il a vu le massacre qu'il avait fait, il a dit ok, c'est pas de problème, vous, on va faire un pacte. Oh, décidément, on s'en sort pas de ces pactes. Et en fait, vous allez rester dans les villes et nous, on va rester dans les forêts. Et au fur et à mesure, grâce à cause de la pollution, et ben ma foi, le royaume magique commence vraiment à péricliter. C'est pour ça que ce prince a décidé de tuer l'humanité. Et voilà.
Mais d'accord.
Il est assez bien fait. Bah, cette vision, c'est Guillermo del Toro, hein, c'est le labyrinthe de Pan, et voilà.
C'est un peu flippant. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas vu beaucoup des films sur le diable. C'est qu'il y en a pas mal qui sont quand même ultra flippants.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des films un peu style, par exemple, La Malédiction, hein, puisque en fait, c'est l'histoire du fils. Enfin, disons.
Du fils ?
Non, pas du fils, mais on s'est calmé ! En fait, non, c'est l'histoire.
Pardon. Non, mais je me sens ridicule.
Le ridicule n'est rien. L'ennemi, c'est le doute. Poursuivez.
J'ai une animatrice qui est en train de descendre en son place. Pardon,
en fait,
j'ai une sinusite.
C'est l'histoire d'un ambassadeur qui doit avoir un enfant. Malencontreusement, tout le monde lui dit que c'est l'antéchrist. Donc voilà. Et en fait, ben voilà, c'est un peu l'histoire, évidemment. Les parents qui vont dire non, notre fils n'est pas ça. Et puis effectivement, ben si, c'est quand même ça. C'est l'histoire. C'est-à-dire que là, on a carrément un paradoxe. C'est-à-dire que souvent, on voit l'enfant comme un être pur et innocent. Et ben là, il l'est pas du tout. Alors là, il y a eu plusieurs exemples, puisqu'il y a eu La Malédiction de Richard Donner en 76, Damien, La Malédiction de...
Parce qu'en fait, on est d'accord que l'antéchrist, c'est donc, on a Jésus-Christ,
oui,
le fils de Dieu, qui vient sur Terre.
Voilà.
Alors que Dieu et le diable ne viennent jamais sur Terre.
Non.
Et le fils du diable, donc l'antéchrist, qui vient sur Terre aussi.
Voilà. Bah, c'est-à-dire que souvent, il y a ce côté, mais dans beaucoup de films où il y a les anges et les démons, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas techniquement, on suggère, tu vois, parce que le problème, c'est que c'est un peu comme une guerre froide.
Ouais.
Et que la Terre serait, évidemment, la frontière. C'est-à-dire que si jamais l'un pose le pied sur Terre, et ben l'autre forcément va intervenir. Et là, il y aura vraiment du dégât. Donc, on préfère faire tout
en douceur.
Mais ce qui est d'ailleurs très très marrant, c'est que beaucoup dans beaucoup de films, le diable apparaît, ou le diable ou ses serviteurs apparaît. Par contre, c'est vrai que Dieu, il apparaît très très peu. Hein. Les anges, des fois, c'est le diable contre les hommes. Mais Dieu, il apparaît pas. Quoi.
On n'y touche pas, ouais.
Ah, non, mais c'est ça. Moi, ça me fait d'ailleurs penser en tant qu'enfant, puisque on a aussi l'exorciste hein, avec le démon mésopotamien.
Si ça, j'ai vu, ouais.
Pazuzu, c'est la Pazuzu.
Ça, j'ai vu et ça, j'ai flippé, quoi, ouais. Gamine.
Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que là, on est dans le cadre, évidemment, de l'exorcisme, c'est-à-dire donc le cas d'être possédé par le démon.
C'est ça, ouais.
Diabolo ! Et en fait, les prêtres font l'exorcisme pour, évidemment, retirer le diable du corps. Et là, c'est le cas d'une enfant qui a la tête qui tourne, qui dit des phrases pas très jolies, que ne restons pas ici, parce que c'est à une heure de grande écoute, hein, et qui marche sur le plafond et qui a des problèmes gastriques, hein, parce qu'elle vomit beaucoup quand même, cette enfant.
Oui, et puis après, effectivement, c'est cet être possédé, et c'est une petite fille, là, en plus, dans l'histoire. C'est dur, quoi, tu vois, la famille, l'exorcisme, c'est pas un mythe, il y avait vraiment des exorcistes, tu te dis, mais attends, mais...
Bah, il y a eu beaucoup, parce qu'il y avait Conjuring...
Enfin, moi, c'est la frontière du doute, là, tu vois.
Bah, il y a eu le film, là, qui est sorti dernièrement, l'année dernière, The Conjuring, donc les dossiers Warren, donc en
qui
fait...
Qui est une véritable histoire.
Voilà, c'est ça, tout à fait, de gens qui chassaient les démons, et là, effectivement, on a fait dans une version assez réaliste, hein. Là, on n'est pas dans l'apparition du démon, mais c'est des gens qui étaient possédés. Après, il y a eu beaucoup de trucs, mais ça me fait penser justement à un film.
Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio.
Ah.
A-t-elle trouvé le diable ?
J'étais avec des diables.
Oh, c'est bien ça. Voilà. Et puis, moi, ça me fait penser à The Rosemary Baby de Roman Polanski. Hein.
Romance ?
Romance, oui. Bah, Roman Polanski, d'après le roman d'Ira Levin.
D'après le romance ?
Non, d'après le roman d'Ira Levin en 1968. Donc évidemment, l'histoire d'un couple qui débarque là aussi encore à New York, dans un immeuble victorien.
C'est comme les extraterrestres, hein, tout se passe à New York.
Ouais, là c'est ça, voilà. Mais même le diable aussi, ma foi. Hein. Et donc en fait, elle a l'image un soir d'être violée par le démon. Et en fait, son mari lui dit, bah non, excuse-moi, j'avais envie, je t'ai fait l'amour pendant que tu dormais. Et là, elle commence à avoir un peu des trucs de vision où les voisins commencent à être gentils, à lui faire des petits cadeaux. Il y a une de ses amies qui est défenestrée. Et c'est là qu'elle commence.
c'est complètement bizarre.
Ah oui, c'est super.
Les petits cadeaux et la défenestration.
Voilà,
il y a un rapport.
Bah oui, parce qu'elle a l'impression qu'il y a un complot autour d'elle et surtout autour de ce bébé qui est en train de grandir en elle. Et c'est là où ça commence à la perturber, la pauvre jeune fille. Et voilà, elle sent un piège qui se referme sur elle, et malencontreusement, qui va fermer sur elle. Et d'ailleurs, l'immeuble, par contre, n'existe pas, hein, le plafond n'existe pas. En fait, les plans d'extérieur ont été faits au Dakota Building, à l'angle de la 72e rue et de Central Park West, là où habita le fameux Boris Karloff, hein, et là où, devant lequel John Lennon fut assassiné.
Devant lequel ? Devant les mêmes immeubles.
Ouais, voilà. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait penser, puisque certes, le film est sorti en 68, et le 9 août 1969, on retrouve Sharon Tate, donc la compagne de Roman Polanski.
Défenestrée.
Non, par contre, elle avait été assassinée à coups de couteau, elle qui portait son enfant. Et c'est le fameux Charles Manson qui avait fait ça, quoi. Enfin, c'est pas techniquement lui qui l'a fait, c'est sa famille. C'était le nom de sa secte, la famille. Et donc ils sont arrivés, ils ont assassiné tout le monde lors de la soirée. On a trouvé des gens qui avaient reçu plus de 40 coups de couteau.
Et depuis, Roman Polanski ne fait plus de films.
Bah, c'est-à-dire que non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'on a souvent accusé le truc, c'est que ce film qui avait fait que la secte et attaquer sa douce, quoi.
Bah oui, oui, tout à fait. Bah, c'est quand même criant, quoi. Il y a un truc.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, puisque quand même, Charles Manson, c'est quand même. Lui, il était parti dans un trip où il se considérait comme Jésus, comme le diable, ouais. Et qu'il était dans. Il y avait une guerre ethnique où les Noirs massacreraient les Blancs, et que, ben, comme. Forcément, les Noirs ne savent pas se gouverner tout seuls. Et ben, ils se tourneraient vers lui et il allait devenir le nouveau Messie.
Voilà. Il y a des malades partout.
Voilà. Et ce qui me fait penser, puisqu'on en est toujours au
démon. Ce qui me fait penser que j'ai de la musique.
Ouais.
Rosemary's Baby. Tu sais, elle chante une berceuse.
Oui. Oui, exact.
Voilà, dans le film.
Oui, c'est la voix de Mia Farrow. Hein.
Tout à fait.
Et mais Sharon Tate apparaît un peu dans le film, et logiquement, Roman avait
poussé. Moi, j'ai la voix
avait poussé,
de Mia Farrow.
Oui, avait poussé justement à ce que ce soit Sharon qui joue ce film.
Il est hyper angoissant, ce film, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle porte l'enfant du diable. Enfin.
Bah, c'est un peu ça.
C'est ce qu'il dit, ouais. C'est que, voilà. C'est qu'a priori, c'est même l'histoire du film. Tu suis un peu ou...
Bah, je viens d'arriver un petit peu.
Et
en
bah, tu parleras sur le prochain film.
D'accord, voilà. Mais là, je voulais mettre de la musique sur ce film-là, peut-être.
Non, mais non, on va pas s'entendre.
Et je suis là. C'est surtout que c'est super flippant.
Bah oui. Oui, oui. Ça me fait penser à d'ailleurs, justement.
Est-ce
parle
que tu veux aller fumer une clope ou on après?
Non, ça va, je suis là.
C'est bon, je suis dedans.
Oui, alors cher Becky, cela me fait penser à une autre histoire d'Hollywood et de satanisme avec Anton LaVey, qui était le représentant officiel du satanisme à Hollywood et qui avait dans ses rangs James Mansfield.
Et son
fameuse. Oui, parce que c'est la nana qui a suivi Marilyn Monroe. Tu sais, Marilyn Monroe donc s'est suicidée. Hollywood a cherché une remplaçante et donc c'était la personne
oui,
de Gentleman.
On en a parlé quand on a fait les belles gueules.
Voilà, c'est ça. Et c'est cette fameuse dame qu'on appelait The Breast, donc la poitrine.
Tiens, toi qui est assez bonne en anglais. Yeah. Broomstick.
C'est balai.
Ah! Tiens, dans tes dents! Je l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit on n'est pas à l'heure de la jouissance.
Et bah oui, parce que le stick de Broom. Non, parce qu'en fait, le personnage s'appelait Broom, donc voilà, c'est pour ça que.
Enfin, un broomstick, c'est quand même un balai.
J'ai dit voilà, Broom, on dirait un balai.
Et donc ce Anton LaVey avait dénoncé James Mansfield en disant qu'elle allait mourir. Et effectivement, une semaine plus tard, elle avait eu un accident de voiture et on l'a. Apparemment, la légende voulait qu'elle soit décapitée. Donc.
C'est la blague de paf la Jane.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Elle a été victime de sa légèreté, disait-il. Voilà.
Pourquoi elle s'est envolée?
Non, elle
est. Bah, tu vois, je suis arrivée.
Sa tête,
on l'a plus jamais retrouvée. Non, mais sa tête. T'inquiète.
Sa tête,
aujourd'hui,
par
on
contre...
est en forme.
Ouais.
On est là pour toi. Ouh.
Oui.
Toi, auditeur.
Oui. Sur le 107.5.
Et sur le www.rdwa.fr.
RDWA.
Wow.
C'est tout pour toi.
Voilà, le diable est parmi nous. Alors, nous avons parlé de nombreux films, ma chère Becky, lorsque
bien.
Tu étais dans ton instigation parmi les démons et les démons.
J'étais dans les démons tout court. Hein.
Oui.
Il n'y avait pas de démons, il n'y avait que des démons.
Il n'y avait pas Matt Damon. Oui, j'ai osé. Ne me regarde pas, Anna, avec ces yeux-là. Oui, j'ai osé, Matt Damon. Oui, voilà. Puisque nous avons parlé de Angel Heart, nous avons parlé de l'avocat du diable. Mm-hmm. Là, nous étions à Rosemary Baby.
Rosemary's Baby.
Voilà, oui. Tout à fait. Nous avons aussi.
C'est bien de me faire un petit résumé, ça fera pour les auditeurs.
Voilà, nous avons parlé de Spawn, qui est une énorme bouse. Hein.
Voilà, il l'a dit quatre fois, il le redit. Ouais. Une énorme bouse. Hein,
voilà,
Spawn,
c'est
vraiment.
Ça, voilà. Et Ghost Rider, évidemment, Hellboy.
Évidemment, qui est une énorme bouse aussi, non ?
Non, Hellboy, ça va. Moi, je trouve que voilà, bah, c'est surtout grâce à Guillermo del Toro. Parce que ça, voilà. Est-ce que tu avais quelques films dont tu voulais nous parler ?
Oui, j'avais des films, ça tombe bien, c'est ça ?
Oui, voilà. c'est un peu la thème.
Bah, écoute, je vais faire rapidos. Hein. Je vais commencer par un film dont j'ai déjà parlé à peu près 14 000 fois. Et
Les sorcières d'Eastwick.
J'étais sûre que t'allais en parler parce que je l'ai vu quand j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, elle a pas dit qu'elle allait en parler, mais quand même, je lui laisse parce qu'elle est fana.
J'ai un petit extrait sonore, c'est pour ça que je vais en parler un peu. C'est un film de 87 de George Miller.
Non, mais ça, on sait, c'est bon, ça parle de sorcières.
Ça parle de sorcières et surtout, donc, l'apparition du diable, on va dire, dans ce film-là, c'est Jack Nicholson qui apparaît à ces trois nénettes qui sont pas des sorcières à la base, mais qui se révèlent en être au contact de ce Jack Nicholson qui c'est Daryl Van Horn. Et il est assez drôle, et donc j'ai un extrait sonore pour prouver qu'il est drôle, parce que j'aime bien ça. Bah oui, oui, voilà. Et je trouve que le film est plutôt hilarant, et je l'aimais beaucoup. Oh, écoutez, vous avez entendu ? C'est Windows.
Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pris ton carillon ? Putain, j'ai oublié le triangle.
Écoute, écoute.
Et personne ne le fera à votre place, vous savez.
Qu'est-ce que vous avez en tête, exactement ?
Je me montre aussi direct avec vous que je peux l'être. J'ai pensé que vous apprécieriez. Et moi, j'ai toujours aimé tirer un petit coup après le déjeuner. Qu'est-ce que vous en dites ?
Pervers, le diable.
Vous essayez de me séduire, moi ?
Jamais je n'espérerai vous séduire, Alexandra. Jamais je n'insulterai votre intelligence avec une chose aussi triviale que la séduction. Mais je meurs d'envie de vous baiser.
Eh bien, vous savez, je dois admettre que j'apprécie votre extrême franchise, Daryl. Je vais me montrer aussi franche et directe avec vous que je peux l'être. Je crois... Non, je suis absolument sûre que vous êtes l'homme le moins séduisant que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Vous savez, dans le peu de temps que nous avons passé ensemble, vous avez fait preuve de... des caractéristiques les plus révoltantes de la personnalité masculine et même découvert de nouvelles. Vous êtes physiquement repoussant et intellectuellement retardé. Vous êtes dénué de tout sens moral, vulgaire, insensible, égoïste, stupide. Vous n'avez aucun goût, un sens très douteux de l'humour et vous puez. Vous n'êtes même pas assez intéressant pour me rendre malade.
Qu'est-ce que vous préférez, être au-dessus ou en dessous ?
Ah, au revoir, Daryl, et merci pour cet agréable déjeuner.
Voilà, et je crois que je le connais, c'est rigolo.
Tu connais Jack Nicholson ?
Non, non, le personnage là, c'est drôle.
Ah, t'as des exemples ?
Voilà, et donc je vais pas en faire des tonnes sur le film en question parce que.
Parce que ça fait 4 fois
que j'en parle.
Non, mais on a compris que t'aimais bien. Après, moi, je t'avouerai que pour moi, c'était une super production. Disney un peu niaise, pourrie de notre enfance, et je l'ai re-regardé depuis que tu nous en parles à chaque émission.
Bon,
et il y a un certain charme vintage, j'avoue, de quelque chose qui nous a quand même fait rêver et qui est quand même encore rigolote.
Alors, du coup, je vais vous parler d'un film, je vais remonter le niveau, je vais vous parler d'un film de 49 de René Clair qui s'appelle La beauté du diable.
Ah oui.
Avec des acteurs, des bons acteurs, des vieux bons acteurs.
Pourquoi
notamment...
tu dis que Jack Nicholson n'est pas un bon acteur ?
Mais c'est parce que du coup, c'est là, ça a du charme aussi, mais c'est pas le même et c'est pas années 80, donc ça n'a rien à voir. Donc là, c'est Michel Simon et Gérard Philippe.
Ah oui.
C'est, on revisite le Faust, en fait. Donc on est au 18e siècle.
Ah bah on en parlait justement, est-ce qu'on n'avait pas un film sur Faust ?
Et bah voilà, on a un film sur Faust, autre que celui dont on a parlé hier soir,
oui,
Gwen.
Oui.
Bref.
Donc... Faust sur mer ?
Non, je parlais,
ah oui.
Je parlais du Faust fucking.
Oui, ça c'est la version X.
Et voilà, donc nous c'est passons fait. Sur RDY le mercredi soir.
Ah, il est 18h, les enfants sont en train de prendre leur bain. Bon, ça va. Hein.
C'est ça.
Alors donc Faust, qui est évidemment un professeur d'université, on va dire ça comme ça, qui n'a pas vraiment vécu la vie qu'il aurait voulu, qui est un peu plein de regrets et de frustrations. Et il se fait chier, on peut le dire comme ça.
Oui.
Et il fait la rencontre de Méphistophélès, qui est donc joué par Gérard Philippe, qui est donc,
Le diable.
Qui est donc le diable, évidemment.
Méphistophélès.
Et, il est évidemment très séduisant et il lui propose en échange de son âme la beauté, le succès, etc. Et de revivre des choses intéressantes et fortes. Et donc il y a un switch de rôle, c'est assez intéressant, c'est que Michel Simon joue, joue donc son personnage de...
Le professeur.
Pourquoi je l'ai pas, le vieux professeur, Faust, évidemment. Et le vieux Méphistophélès, et en fait, il switch avec Gérard Philippe, et Gérard Philippe joue le jeune professeur. Hein, tu vois, voilà. Il y a un switch de rôle. Il y a plein d'histoires sur le net si vous faites des recherches sur ce film à propos des deux acteurs très antagonistes, c'est-à-dire Gérard Philippe, jeune premier, très très beau, très séduisant, oui. et Michel Simon avec sa vieille gouaille un peu grossier, etc. Oui, et en fait, ils s'aimaient pas beaucoup. Mais dans le film, ça se voit pas. C'est des bons acteurs. Voilà, et c'est un bel exemple du vieux film fantastique français en noir et blanc avec des très belles images. C'est à voir.
C'est-à-dire que en faisant des recherches, c'est vrai que on a eu Georges Méliès qui a fait au début beaucoup de films sur le diable, et c'est vrai qu'après c'est devenu l'apanage des Américains. C'est vrai qu'il y a peu de. S'il y avait un film avec Josiane Balasco et
Daniel Auteuil. Mais c'est quelque chose d'ailleurs ce film, j'aurais dû en parler.
Oui.
Mais enfin,
oui. Voilà, c'est ça. Oui, bon, après c'est plus tiré comique souvent d'ailleurs
dans des sujets.
Oui, non, mais c'est ça qui est marrant, parce que souvent les Français prennent des sujets très sérieux et en font souvent des comédies.
Grosses comédies.
Alors que les Américains font souvent des films assez noir.
Ça fait peur en fait. Mais c'est aussi le côté religieux des Américains. C'est-à-dire que le diable, ils le prennent au sérieux.
Oui, c'est ça.
Les Français ont un côté très religieux aussi. Hein.
Oui, mais pas dans les films. On n'est pas tout le temps en train de mettre des bondieuseries dans nos films. Et les Américains, le diable, ils en ont la flippe réellement. Alors que nous, on arrive vachement à en rigoler. D'ailleurs, les croyants français, le diable, c'est pas un truc qui revient sans arrêt non plus finalement. Non. Tu vois, les Américains ont très peur de leur côté sombre et de leur diable intérieur.
Ça, c'est depuis Star Wars.
Ouais, tu m'étonnes, c'est ton côté obscur.
Mais j'en rejoins le côté obscur de la force.
Donc, ça m'amène à mon troisième film. Hein. Je vais pas en parler très longtemps non plus, mais j'en ai déjà parlé, en fait, dans la première émission
que j'ai faite. Les Sorcières d'East Week.
Pas du tout. Dans la première émission que j'ai faite pour Arrête ton cinéma, où je suis venue parler de Stephen King. Mmh. À l'époque, je m'appelais Carrie Dumaine. et donc, c'est une adaptation donc, de Stephen King, qui c'est le bazar de l'épouvante, Needful Things. Oui. Mmh. Et là, il y a le diable sous la personne de Liliand Gaunt, pardon, qui vient faire son apparition dans le petit village, enfin la petite ville du Maine de Castle Rock, et qui ouvre une espèce de brocante un peu, où les gens, comme par hasard, trouvent ce dont ils ont pile poil besoin et très envie surtout. Et ça n'a pas de prix, ces choses-là. En échange, Liliand, qui est très très séduisant, hein, il fait un effet bœuf à tout le monde, il demande juste des petits services, de jouer des petits tours aux autres habitants du village, tout ça. Et en fait, il met un bazar, un bordel hallucinant. Voilà, il y a un type qui finit par buter sa femme, enfin voilà. Et il met vraiment à la ville à feu et à sang. Les deux communautés religieuses d'ailleurs s'opposent et finissent par une espèce de guerre des tranchées dans la rue. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment typique des Américains, c'est-à-dire de le diable est partout, en chacun de nous, et il suffit de pas grand-chose pour le faire ressortir.
Mmh. Ouais, voilà. Il me semble qu'il y en avait un aussi, Stephen King, où il apparaît dans un village et il demande à ce qu'on lui donne un enfant.
Donc, tu m'en as déjà parlé dans la même émission, et dans la même émission, je ne me souvenais plus. Ouais. Et je ne me souviens toujours pas.
T'aurais pu faire des recherches, je trouve que t'abuses.
En attendant, j'ai un peu oublié, c'est vrai. Vous voulez parler d'un autre film avant que je balance mon quatrième?
Moi, je vais parler d'un film américain.
Vas-y.
Le seul film que j'ai vu et étudié sur le diable, en fait.
Oui.
C'est Constantine, qui est sorti en 2005 de Francis Lawrence.
Parce que j'ai pas tout compris.
Alors, Francis Lawrence, c'est celui qui a fait Je suis une légende et Water for Elephant. Mais c'est aussi celui qui a fait Hunger Games.
Le film que tu adores.
Bah oui.
Voilà, c'est ça. Et Constantine, le film dont je vais vous parler. Donc Constantine, c'est une histoire, donc, selon la théorie dont on a parlé tout à l'heure, t'étais pas encore arrivé, comme quoi Dieu et Satan jouent un peu aux échecs dans ce monde qui est le nôtre. Mmh. Ils ont pas le droit d'intervenir directement, mais ils peuvent faire venir sur Terre les anges, les démons, et Jésus qui est venu pour Dieu, et puis l'Antéchrist pour le diable. Voilà. Mais eux, ils peuvent pas débarquer, sinon ça serait vraiment trop loyé.
C'est la guerre froide, quoi. C'est
ça. Et après, ils ont des gens qui peuvent utiliser tout ça. Kenny Reeves, c'est John Constantine. Quand il était ado, il a tenté de se suicider. Donc du coup, il est condamné à l'enfer, quoi qu'il arrive.
Ça c'est les
Américains. Et du coup, il a un cancer du poumon, genre stade plus qu'avancé.
Terminal, parce qu'il fume trop.
Il fume pendant tout le film en permanence. Et il s'est investi du rôle inspecteur du paranormal et exorciste.
Oui, parce qu'en fait, il veut sauver son âme.
Voilà.
Parce qu'il, lui, il a vu ce que c'était que l'enfer.
Il essaye de racheter, en fait, si tu veux, son âme, parce qu'il sait qu'il va aller en enfer. Et donc il a des contacts avec des archanges qui sont sur Terre.
Mais
et
il sait
ça.
Qu'il va y aller, donc il essaye quand même. C'est un peu non, cool. Non, moi, non, j'aimerais
mais
profiter
non.
à bloc.
Non, non, mais c'est,
il essaye de sauver sa peau, ouais.
Pour parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est que comment ça s'appelle l'enfer, mais lui, il l'a visité pendant quelques.
Pendant quelques minutes, ouais. Voilà. Il a vu il que très, c'était très c'est que du feu. Enfin, il y a des belles images, on va dire entre guillemets.
Ouais, ouais.
Et donc, le film commence sur un exorcisme, justement. Il manque de se faire démonter par le démon, alors que c'était censé être un petit exorcisme, hein, juste
oui, voilà.
Une gamine possédée, vite fait, paf.
Genre, habituel, quoi.
Habituel, bah, oui. Le quotidien, mais là, il trouve ça dur, du coup, il comprend que les forces du mal ont basculé un petit
oui,
peu.
Oui, parce qu'ils apparaissent sur le plan physique humain, et donc.
C'est ça.
Alors qu'ils n'ont pas le droit.
Et donc, il comprend qu'il y a un truc qui a basculé. Ce qui a basculé, nous, on le sait en parallèle, c'est que la lance du destin, qui est un objet, genre un. Une relique du diable
bah oui,
a été découverte.
Parce que c'est la fameuse lance qui a fait saigner Jésus sur sa croix. Voilà. C'est la lance de.
C'est une relique donc.
Saint Graal.
Qui a été découverte au Mexique. Et que du coup, le Mexicain qui l'a découvert, il est possédé par un démon un peu.
Et pendant ce temps, Veracruz.
Et il va essayer d'aller libérer le fils du diable qui est oui. l'antéchrist qui a débarqué sur Terre, mais en fait pas encore vraiment. Et donc en parallèle, donc John Constantine qui se fait péter la gueule limite s'il se fait péter la gueule par le démon du début du film, se dit oulala, donc il va consulter tous ses potes, genre Papy Midnight qui est donc
génial.
Le mentor, parce qu'il y a toujours un mentor dans
oui, lui c'est le spécialiste du vaudou.
Voilà, et il garde des portes entre l'enfer et le paradis et tout. Enfin, c'est quand même un imbroglio assez incroyable. Il va voir les archanges Gabriel et compagnie, oui. qui sont pas super sympas en fait.
Non, Tilda Swinton, qui ouais. joue l'ange Gabriel.
Qui est en train de passer du côté du mal. Et il rencontre Angela Dodson, où il entretient une relation... un peu ambigu voilà. avec elle. Elle est policière et sa sœur vient de se suicider, mais elle croit pas vraiment au suicide. Elle pense
qu'elle était
que...
croyante.
Voilà.
Donc elle pouvait pas se suicider.
Elle peut pas se suicider, tu comprends, parce que sinon elle sait. Enfin, bref. Et l'antéchrist, donc qui va se faire libérer par le Mexicain.
Mammon.
Il est en train d'essayer de se réincarner dans la sœur.
Oh, bah oui, parce que je me sois pas attaqué à ce
non, parce qu'en fait, elle est médium et donc le démon, pour arriver sur Terre, ne peut passer par le corps d'un médium grâce aussi à l'aide d'un.
Attends, c'est pas fini du tout. Parce que Keanu Reeves, lui qui est en train de. Il écope, il fait des voyages entre donc l'archange, son loft, super nouvelle génération, la salle de bowling chelou, puis les démons débarquent sur Terre, c'est quand même très 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 bizarre. Et lui, en plus, il a un petit gars qui le suit.
Oui, Kramer.
Kramer.
Chase Kramer.
Voilà, et il lui apprend un peu tout ce qu'il sait. Enfin, voilà. Et
c'est
donc,
le disciple.
C'est un peu, voilà.
Le padawan.
C'est un peu le Robin.
Ah ouais, tiens.
C'est un peu le Robin de Batman, ouais, tout
voilà,
à fait.
Voilà, c'est ça.
Et finalement, c'est un film qui part un peu dans tous les sens quand on le raconte.
Oui, oui,
mais
oui.
Il y a des jolies images, il y a des beaux acteurs. Keanu Reeves et Tilda Swinton sont quand même pas mauvais.
Et oui, et Peter Stormare qui fait le diable.
Ouais, mais du coup... ouais, bon, moi j'ai pas trouvé ça extra, mais... Et du coup, c'est un peu didactique quand même, ce film est didactique sur la manière au cinéma de voir... justement en règle générale les conflits diable Dieu tout ça parce
ouais,
que il t'explique bien quelles sont les,
voilà,
les bases
c'est ça. En
truc.
Fait le diable il t'inspire, il te murmure à l'oreille et c'est là en fait c'est de te dire que tu n'as pas de libre arbitre en fait.
Mais
c'est
oui.
ça qui est génial.
Voilà, hein, donc il est pas mal.
Moi je trouve qu'il est c'est un divertissement, il faut pas le voir au-delà, hein.
Moi j'écoute le petit diable que j'ai sur l'épaule.
Voilà. Moi j'avais un film un peu plus comique, c'est Tenacious D et le pic du démon.
Et ça sera le dernier, Gwen.
Voilà.
Assure Tenacious D.
Oui, enfin, il y a juste un après. En fait,
ouais,
c'est
moi, j'en ai un rapide à
voilà.
mentionner.
Bah oui, mais justement, ça sera le dernier,
ah,
de Gwen.
Ah, non, mais moi,
bah alors, tu choisis un des deux.
Alors, en fait, alors, je choisis Seven. Donc.
Ok, alors tu choisis Seven.
Désolé
donc,
pour
de David Fincher, donc en 95, avec Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey.
Donc, il n'est pas très flippant celui-là, mais il est dégueulasse.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire de John Doe. Alors, John Doe, pour savoir, c'est...
toujours le nom qu'on donne à celui qu'on a trouvé, mais dont on ne connaît pas le nom.
Non, voilà, voilà. Le corps
merci.
Qu'on trouve. Et donc voilà, qui est un assassin sadique et qui tue ses victimes en les punissant là par où ils ont péché, c'est-à-dire évidemment le gourmand par la bouche, la prostituée par le sexe. Donc il y a 5 crimes qui sont mis en place, mais le tueur a mis, un scénario en place pour arriver aux 7 péchés capitaux, puisqu'évidemment c'est un peu l'apanage du diable, les fameux 7 péchés, avec Mammon, donc l'avarice, Léviathan, l'envie, Belzébuth ou Behemoth, la gourmandise, Asmodée, la luxure, Lucifer, Bélial, l'orgueil, et Belphégor, Astaroth, la paresse.
Et celui de la paresse, il est affreux. Je l'ai vu au cinéma, j'avais 12 ans.
Oui.
J'ai sursauté.
Mais voilà, c'est ça. Alors là, le diable, pour l'occasion, n'apparaît pas, mais là, on parle véritablement des péchés capitaux, et l'ambiance, elle est vraiment très très forte, et moi j'ai beaucoup...
Il est excellent ce film. Voilà.
Très très bon à voir.
Ouais. Voilà, ouais. Donc,
c'était un très bon choix pour ton dernier film, ouais. Gwen, merci beaucoup. Émilie, Becky, pardon.
La 9e porte.
Ouais.
Deuxième film de Roman Polanski dont on parle aujourd'hui, après Rosemary's Baby. Celui-là, il est sorti en 99, et il est tiré d'un roman, le nom, mon Dieu, Arturo Pérez Reverte, avec Johnny Depp.
Eh oui, forcément.
Du coup, Johnny Depp est mort à la sortie du film. Non, c'est pas ça. Parce que Roman Polanski...
Non, c'est sa femme à Roman Polanski.
Il a survécu, donc, Johnny Depp. Depuis, il a fait d'autres trucs, d'ailleurs.
Ah, mince.
Donc là, c'est l'histoire de Dean Corso, donc Johnny Depp, qui est un Américain spécialisé dans les livres anciens. Enfin, c'est une sorte de... Il recherche les livres anciens. Et il est envoyé en Europe par un collectionneur, afin de trouver, surtout, des vieux volumes qui datent du XVIIe siècle, quelque chose comme ça.
Il y a Mathilde Seigné dedans.
Tout à fait.
Qui est donc la nouvelle épouse de Roman Polanski.
Elle joue une jeune femme qui est en fait l'incarnation du diable, au final, je dirais ça. Donc là, s'ensuit une enquête et... Toute son enquête est entourée de meurtres étranges. Il s'y attend pas trop, tu vois. D'habitude, il cherche des vieux bouquins. Au pire, il y a des histoires de sous derrière, mais il y a rarement des meurtres.
Il cherche un livre.
Voilà, et ça part en cacahuète et il est assez angoissant. Et voilà.
En parlant de Johnny Depp, ce qui me fait penser, c'est que lui et Vanessa Paradis avaient donné à leurs enfants le nom de Lily Rose et de Jack, et en fait c'est tiré du film Légende de Ridley Scott, donc avec l'un des premiers films de Tom Cruise où il y avait un démon, tu sais, un démon cornu très grand, voilà. Et là
je mets un peu de musique du film pour mettre un peu, tu vois, l'ambiance, et c'est extrêmement pesant, et le diable est partout.
Voilà, mais il est très bien celui-là. Enfin, ouais, un peu space, mais bon.
Moi, je l'ai bien aimé. Écoute, ouais.
Quand je dis space, ce n'est pas...
L'ambiance est chargée.
De toute façon, dans les films sur le diable, l'ambiance est chargée.
Effectivement, à moins d'en faire des gros films.
Moi, je te dis, je suis un peu genre, est-ce que c'est du lard ou du cochon, quoi. Je suis pas sereine, quoi.
Ah voilà. Si, moi, complètement.
Moi, je suis pas sereine.
Vous avez parlé du dossier Warren, là.
Ouais. Oui, voilà.
Par exemple, moi, c'est le film, ça m'a fait marrer, parce que ça me fait pas peur. Les choses réelles me font peur. Les vrais tueurs, les vrais méchants qui existent en vrai me font peur. Mais ça, ça me fait aucun effet. J'ai passé mon temps à me marrer.
Voilà, oui, et puis il y avait le Piccolo Diabolo de Roberto Benigni, où c'est un petit démon qui apparaît, et donc voilà, et là il est comme un enfant, il découvre tout, et il y a le fameux séquence où il apprend à pisser. Il est content, il se dit « Ah, je pisse !» Et après, il commence à pisser, à uriner, mais déjà, impossible.
On a le penchant comique. Ouais.
Oui, mais voilà, c'est le...
Cette musique-là, on se dit que c'est pas comique.
C'est-à-dire que...
Moi, j'ai l'impression que c'est la musique du Seigneur des Anneaux dans une des scènes un peu...
Oui, non, mais c'est-à-dire que là, pour l'occasion, on apparaît tout ce qui est diabolique chez l'être humain. Hein, donc voilà, c'est ça, toute cette représentation du mal qu'on peut faire aux autres hommes. Alors là, évidemment, on l'a chargé d'un être cornu, poilu. On n'a pas parlé des sorcières.
Hein, si, les sorcières d'Eastwick.
Un spécial sorcier.
Voilà, si un spécial sorcière. Voilà.
Je le note.
Et les incubes et les succubes aussi. Hein, et puis notre chère Lilith a été peu représentée aujourd'hui.
On en reparlera, c'est promis. On s'attaque au pestel ?
Oui, on s'attaque au pestélisme.
Alors, la semaine du 9 au 15 avril.
Si tu ne te trompes pas.
C'est bon ?
Oh !
Alors,
c'est pas bien, ça.
Pour parler de films diaboliques, on parle de Superchondriaque, un film français. Hein,
une grosse comédie potache.
De Danny Boone avec Danny Boone et Cadmerad.
Oh, c'est Bienvenue chez les Ch'tis 2. Ouais.
Exactement. Alors, j'ai même lu un article où ils disent que c'est la consécration de l'humour de Danny Boone.
Oh.
Ouais.
Alors, Romain Flaubert, quadragénaire et célibataire endurci, a un sérieux problème d'hypochondrie. Donc l'hypochondrie, on rappelle que c'est les gens qui ont l'impression d'être toujours malades gravement.
Ils vont un peu au-delà de ça, hein. Ils cherchent des symptômes, voilà. Ils vont très très loin.
Et,
des fois, médecin.
Et donc c'est une maladie en fait, ouais, en soi, parce que finalement tu peux t'en rendre malade. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Tous les deux jours, il débarque dans le cabinet du docteur Dimitri Svenska, qui est aussi son seul et meilleur ami. Celui-ci, exaspéré par ce malade imaginaire, pense avoir trouvé le remède. Il va l'aider à trouver la femme de sa vie.
Tu veux dire que la femme était un médicament ?
C'est pas, la femme n'est pas un médicament, et surtout la pauvre pépette qui va s'emmerder avec ce malade.
En plus, elle n'est même pas remboursée par la sécurité sociale.
Donc si vous avez envie, pendant 1h47, de prendre l'humour de Danny Boud et de Cadmerad, qui est-ce qu'il est, hein ? Moi, c'est pas quelque chose qui me fait exploser de rire, mais bon, je suis sûre qu'il y a un public pour ça.
Oui, non, mais c'est un petit film.
Il y a des millions de gens qui vont aller le voir.
Voilà. Ouais, enfin... Et ben écoutez, allez kiffer, voilà, super chondriac.
Ouais, enfin, c'est un petit film sans prétention, non. Enfin, quoique, si. C'est vrai que après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est sûr qu'il est attendu au tournant, comme l'avaient été aussi les Inconnus avec leur film.
Exactement. Sinon, on a pour la deuxième semaine un retour de At Berkeley, le fameux documentaire de Wiseman.
Sur Berkeley, l'université.
Sur l'université de Berkeley, seule université publique aux États-Unis, enfin, non, pas seule, mais
celle
qui est la plus connue au niveau des universités publiques. L'État se désengage. Et donc, Frédéric Wiseman a décidé d'aller poser sa caméra là-bas, au sens propre du terme, puisqu'en fait, Wiseman, il est spécialiste des documentaires où il ne fait pas de commentaires. Il pose qu'à sa caméra et voilà.
Ouais, c'est bien ça.
Voilà, okay. C'est de l'immersion. Donc, il repasse pour donc, la deuxième semaine. Et en plus, il y a une rencontre filmée de 15 minutes avec Frédéric Wiseman, projeté 5 minutes après le film. Donc on peut peut-être un peu plus en savoir.
Voilà, c'est bien ça d'avoir un réalisateur. C'est la classe, ce cinéma, quand même, a dit.
Ouais, tout à fait.
Le ton, c'est que c'est régulier. On a régulièrement des réalisateurs qui viennent à la rencontre du public d'Iwa.
C'est
donc,
ça.
C'est chouette.
Donc là, il y va par film, mais c'est quand même cool.
Bah oui, mais bon, c'est bien aussi d'avoir le point de guillemets, l'envers du décor.
C'est ça. Et sinon, on a Leçon d'harmonie, le troisième film, un film qui vient du Kazakhstan.
C'est pas Borat. Hein.
Non, c'est Emir Beygazin, je suis désolée pour l'accent, avec des acteurs au nom encore plus imprononçable que ça. Interdit aux moins de 12 ans avec un avertissement, donc attention. Mm-hmm. Mutique et renfermé, le jeune Aslan, comme le lion.
Aslan, oui, c'est Aslan. C'est Narnia.
C'est ça. 13 ans, vit seul avec sa grand-mère dans une ferme à l'écart de la ville. Il fréquente un collège où règne la violence et la corruption. Ouh. Humilié par un chef de bande puis ostracisé.
J'adore ce mot.
Par la plupart des élèves de sa classe, Aslan met en place une stratégie pour se venger.
À mon avis, ça va faire mal.
Voilà, donc il y a quand même une interdiction moins de 12 ans. Et là, tu parlais... Du coup, des réalisateurs. Pour le coup, on a Morgan Poké qui est. Quoi j'ai mal dit.
C'est Pokémon.
Oh là là.
Oui. Morgan Poké, en fait, qui écrit pour la revue Réplique et qui fait donc des critiques de films régulières, qui sera là à la séance du 13 avril. Mmh. Donc,
à quelle heure?
Alors, la séance du 13 avril, c'est le dimanche à 20h.
Voilà, ça c'est intéressant si vous voulez voir Poké.
Exactement. Et ça va être chouette.
Oui, alors c'est un petit film. Je dirais,
c'est un petit film qui a eu le grand prix du jury au premier plan d'Angers et l'ours d'argent de la meilleure image.
Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est un jeune réalisateur, donc ça reste un petit peu. Je l'avais dit déjà la semaine dernière, mais c'est un petit jeune qui débute. Donc il y a.
Ça ne veut pas dire qu'il va faire un malheur.
Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais il y a quelques naïvetés. Voilà.
Écoute, à partir de 19h, collation, 4€, 20 offerts, film à 20h.
Voilà.
Avec Morgan Poké. Ça peut être sympa, même sur pour un petit film.
Moi, je poke.
Voilà. La semaine prochaine, on vous parlera de...
La radio.
Ouais.
La radio au cinéma, donc.
Voilà, bah oui.
C'est quand même assez...
Et c'est à la radio. Étrange. Donc, vous écouterez une émission de...
Radio, à la radio, qui parlera de la radio au cinéma.
Inception.
C'est carrément ça. Inception. On va parler de radio au cinéma dans une émission de radio à la radio.
Je crois que je vais aller au cinéma. À la semaine prochaine.
Salut.
J'ai passé mon existence ici. Moi, je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme. Je suis un humaniste.
peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le 20e siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu. Notre temps.
Le libre arbitre, n'est-ce pas?
Vanité. C'est décidément mon péché préféré.
Life is like a box of chocolates.